Bonjour à tous, je m'appelle Loan et je vais vous présenter cette émission radio faite par la classe 9P5 de Saint-Roch en cours de géographie. Avant tout, il y aura deux émissions. Ces dernières seront composées de petites rubriques présentées par un, deux ou trois élèves de la classe. Cette première émission sera présentée par quatre groupes et les thèmes seront les suivants. Amandine et Raquel parleront du chocolat et de son parcours jusqu'à nos magasins. Camille, Clara et Nina nous feront comprendre tout sur le Coca-Cola, cette boisson internationale. Mélanie et Lyndon des frites McCain. Et enfin, Héloïse parlera des cultures intensives au sud de l'Espagne. Toutes ces rubriques englobent un thème commun, l'agriculture intensive et les multinationales agroalimentaires. Nous aimerions vous faire réfléchir à ce qui se trouve dans nos assiettes et du chemin que les aliments doivent parcourir pour y arriver. Il est pour moi important de savoir un peu plus de ce qui finit dans notre ventre et d'en savoir un peu plus sur nos aliments ou nos boissons. Mais avant tout cela, nous allons écouter L'agriculteur de Ridan, car cette chanson correspond bien à tous les thèmes que je viens de citer et est un vrai manifeste pour le travail de la ferme.
Qu'il s'y passe, un milliardaire s'en va en l'air. Quitte l'atmosphère pour voir l'espace. Je troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton. J'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton. J'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Boîte que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. De feu rouge dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirai l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine, chargée en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel.
Bonjour Amandine, qu'allons-nous présenter à nos auditeurs aujourd'hui?
Eh bien Raquel, nous allons faire un petit exposé sur le chocolat.
Combien penses-tu qu'il existe d'espèces de cacao?
À mon avis, il en existe une vingtaine.
Faux, il n'en existe que trois. Le Torastero, le Trinitarios et le Criocolo, ce sont les trois premières espèces de base.
Ah oui, c'est vrai. Mais il existe aussi d'autres variétés croisées permettant d'obtenir des cabosses plus résistantes ou plus savoureuses.
Mais qu'est-ce qu'une cabosse?
La cabosse est le fruit du cacaoyer. Il forme une coque protectrice autour des fèves de cacao.
De plus, la fève est enrobée d'une couche gélatineuse blanche appelée mucilage.
Personnellement, je trouve que cette matière a un délicieux goût fruité. Mais avant plusieurs étapes, le cacao n'est pas très bon, c'est très amer.
Avant d'atterrir dans notre bouche, il doit subir plusieurs étapes de transformation. La cueillette des cabosses et l'ouverture des fruits. La fermentation. Le séchage. le transport, le nettoyage, la torréfaction, le concassage, le broyage et la séparation du beurre de cacao et de la masse de cacao, le mélange pour faire le chocolat noir. Il faut mélanger le beurre de cacao avec la masse de cacao et le sucre. Et pour le chocolat au lait, rajoutez encore de la poudre de lait. Ainsi pour le chocolat blanc, il faut le beurre de cacao, du sucre et de la poudre de lait. Le concassage, la finition du produit fini.
Ça m'a l'air bon. Mais pour faire tout ça, il doit y avoir beaucoup de travailleurs.
Oui, il y en a une grande quantité dans les plantations chaque jour. Mais quels sont les conditions d'exploitation dans les plantations? Y a-t-il de l'esclavage pour la cueillette?
Il y en a eu, mais beaucoup moins importante que sur les plantations de bananes, dû au fait qu'ils n'étaient pas encore très connus dans le monde. Mais il existe encore actuellement des employés mal payés qui viennent d'autres pays et sont surexploités, comme au Costa Rica où la majorité des travailleurs de la terre viennent de pays frontaliers et travaillent dans des conditions misérables.
Comment pourrions-nous éviter ce genre de problème?
En 2001, sous la pression des médias, l'industrie mondiale du cacao s'engage, en signant le protocole Arcangel, à mettre un terme aux pires formes de travail des enfants, à la traite des enfants et au travail forcé des adultes, dans les plantations de cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana. Certaines initiatives des grands acteurs de l'industrie du cacao ont vu le jour, comme par exemple le plan cacao de Nestlé, qui avait pour objectif les conditions de vie des familles producteurs de cacao. Mais cela ne concerne que 1,5% du cacao utilisé par Nestlé. Il y a aussi le label Fairtrade de Max Havelaar. Seulement 3% de la production mondiale de cacao sont certifiés Fairtrade. Sais-tu comment les fèves de cacao arrivent jusque dans notre pays?
Oui, si on prend par exemple la maison Felchlin, un grossiste en Suisse, il achète lui-même ses fèves aux producteurs sur place. Le pays producteur a un port et il envoie directement par navire la marchandise. Si le pays producteur n'a pas de port, il doit faire transiter par camion la marchandise et à ce moment-là, celle-ci peut traverser plusieurs pays avant d'arriver au port. Arrivée en Europe par bateau au Havre la plupart du temps, la marchandise doit encore être transportée par voie fluviale ou par le rail jusqu'en Suisse afin d'être transformée.
Eh bien, après avoir écouté tout cela, je mangerai bien un morceau de chocolat.
Et pendant ce temps, nous allons vous laisser avec Choc Cacao de Annie Cordy.
Dans cette terre-là, 1, 2, 3,
chaud cacao, chaud chocolat. Si tu me donnes tes noix de coco, moi je te donne mes ananas. Chaud cacao, chaud, chaud, chaud chocolat.
Rikiki, tes petits kiwis.
Rikiki, tes petits kiwis.
Les papas de mes baobabs.
Les papas de mes baobabs.
Chaud.
Chanter comme un autre. nous sommes Clara, Nina et Camille. Nous allons vous parler de la marque Coca-Cola.
Bon, pour commencer, nous allons vous parler de la naissance de Coca-Cola.
Oui, c'est à la fin de la guerre de sécession que le pharmacien John Pemberton a créé une boisson alcoolisée.
Qu'il a nommée le Fresh Wine Coca.
Cette boisson avait pour mission de le désintoxiquer car il avait contracté une addiction à la morphine.
La première recette du Coca-Cola a été créée en 1885. Une boisson alcoolisée à base de feuilles de coca, de noix de cola et de la fleur d'amiana.
Oui, mais le 25 décembre 1885, le maire d'Atlanta interdit l'alcool.
Alors, Pemberton crée une autre boisson sans alcool, mais toujours avec la feuille de coca.
Pemberton et son associé Ed Holland s'associent avec Frank Robinson.
Oui, et c'est de là que naît la marque Coca-Cola.
Puis le 6 juin 1887, Pemberton inscrit la marque au registre du commerce.
Oui, c'est ça. Et en plus, la même année, l'homme d'affaires Candler achète la marque pour 2 300 $.
En 1903, la boisson ne devrait plus contenir de cocaïne. Mais après un contrôle, il s'avère qu'il en a encore après 1929.
Maintenant, nous allons vous parler de la production.
Oui, on a pensé que cela serait une bonne idée de suivre le chemin que font les bouteilles de Coca-Cola.
Pour commencer, il faut savoir que The Coca-Cola Company ne produit pas seulement cette boisson, mais aussi Sprite, Fanta, Nasty, Finlay.
Exactement, mais on va les laisser de côté et revenir à la boisson Coca-Cola.
En fait, si vous allez dans différents pays, vous avez peut-être déjà remarqué que les Coca ont des goûts un peu différents.
Ce qui est tout à fait juste, car le sirop ou le concentré est produit par The Coca-Cola Company et est ensuite exporté dans les différents pays.
Une fois le concentré arrivé dans un pays, il va pouvoir être mélangé à de l'eau, du sucre et du gaz pour être ensuite mis en bouteille et commercialisé.
Maintenant, nous allons vous parler de l'implantation de Coca-Cola en Suisse.
50 ans après avoir été inventé, Coca-Cola est arrivé en Suisse et c'est grâce à Max Stoss.
Oui, en juillet 1934, Max Stoss arrive à Détroit aux États-Unis pour affaires et se fait servir un Coca-Cola par ses partenaires commerciaux.
Trouvant la boisson délicieuse et rafraîchissante, il décide de contacter The Coca-Cola Company. À 34 ans, il demande à la société productrice à Atlanta une licence pour la production et la commercialisation de Coca-Cola en Suisse.
Le 6 mars 1936, un contrat est conclu pour la production dans les cantons de Vaud, Genève et Fribourg, avec une option de 5 ans pour tout le territoire suisse.
Oui. En 1936, il n'y avait pas les mêmes chiffres de production qu'aujourd'hui, car chaque bouteille était remplie à la main.
Et même si la société disposait d'une machine d'embouteillage semi-automatique, il n'était possible de remplir seulement jusqu'à 25 caisses par jour.
Au début, Coca-Cola s'est difficilement établi sur le marché suisse, car la boisson était totalement inconnue et aussi parce que les boissons gazeuses rafraîchissantes étaient plutôt considérées comme étant destinées aux enfants et à la saison estivale, donc la demande était faible.
Néanmoins, Max Stoss arrive à convaincre les Suisses de vouloir en boire grâce à des dégustations et Coca-Cola est devenu un succès sur le marché suisse.
4 654 caisses de 24 bouteilles sont produites et commercialisées les 8 premiers mois. Après Coca-Cola, d'autres boissons sont arrivées. Il y a eu Fanta en 1965, Sprite en 1968, Coca-Cola Light en 1984 et Coca-Cola Zero en 2007.
Dans le monde, il se vend plus de 11 000 litres de Coca-Cola par seconde.
De quoi remplir 14 piscines olympiques par jour.
Cela représente plus de 350 milliards de litres de Coca-Cola par an.
Coca-Cola est entré dans la mondialisation en tant que symbole le plus marquant de la force commerciale des États-Unis.
En effet, il était déjà leader de la boisson gazeuse dans les années 1980.
On peut vraiment dire que la boisson Coca-Cola est connue dans le monde entier.
Pour finir, on va vous faire écouter une chanson.
Elle s'appelle « Taste the Feeling ».
C'est Conrad Sewell qui l'a chantée.
Et c'est Avicii qui l'a composée pour une pub Coca-Cola.
Voilà, cette rubrique est terminée.
On espère qu'elle vous aura plu. It feels good in my heart, in my soul when you're right here beside me. And I don't ever want this day to end. Watch the waves, have a coke and just sit here beside me. I take a little of my cardigan. So we can feel forever, yeah, feel. Together be real, together and no one can stop me.
it easier to sing, yeah. Make it easier to sing, yeah. On the shore, and our hearts are jumping. I grab another Coke and let's dive in. With every fading sunset, we see the stars align. We make the simple moments last for a lifetime. So we'll feel forever, you and me together. Make us feel forever and be real together. No.
Bonjour, je suis Mélanie et aujourd'hui je suis avec Lindan. Nous avons eu un problème avec notre première feuille et la moitié de notre rubrique. Donc nous allons continuer avec la suite. J'ai découvert l'entreprise McCain sur un magazine Carrefour qui parlait des marques de produits alimentaires et McCain y figurait. Il parlait aussi des stratégies de développement qu'il fallait sécuriser ses approvisionnements en concluant des contrats avec les agriculteurs membres du GAPI.
GAPI, qu'est-ce que c'est ?
Le groupement des producteurs de pommes de terre pour l'industrie McCain.
Il me semble que les usines sont stratégiquement placées au cœur des grandes régions françaises productrices de pommes de terre.
Mais McCain ne produit pas que des frites, mais aussi des pommes d'apine, de la purée, des céréales buns, des pizzas et des gaufres.
Connais-tu le circuit de production des frites McCain ?
Non, pas vraiment. Et toi ?
Oui, tout d'abord, les pommes de terre sont sélectionnées pour obtenir des frites de 10 cm. Ensuite, une cinquantaine de camions livrent environ 1300 tonnes de pommes de terre, puis elles sont épluchées et projetées sur une grille de coups. Après un tri optique, les frites sont pré-cuites et ensachées par paquets. Elles sont conservées en chambre froide, puis livrées vers les grandes surfaces.
Elles sont aussi livrées dans des restaurants ou des fast-foods.
Sinon, Mélanie, quel est ton plat préféré ?
Les moules frites.
Ah, ça me fait penser à la chanson de Stromae, Moules frites.
C'est vrai ? Pourquoi pas l'écouter ?
Sais-tu ce qu'il m'a dit, Polo ? Ou que son petit doigt lui dit, plutôt ? Quand ce dernier se lève, c'est qu'une coquille de rêve est sortie de l'eau. Et là, il chante,
Polo aime les moules frites, sans frites et sans maillot.
Sa table, il boit toujours un verre de blanc pour oublier l'exécrable, sûr et si âcre, goût de l'océan. Et il est tellement agile, Polo, qu'il ne doit même pas supplier. Et c'est à chaque fois si facile, mais cette fois-ci, elle est un peu moins fragile. Qu'est-ce que Polo imagine? Mais du moment qu'elle criait,
Polo aime les moules frites.
méfier, Polo, car on ne sait où elle s'est baignée. Plutôt, comme elle était contaminée, Polo ne chantera plus ou peut-être une fois enterrée. Polo, on chantera tous.
Polo aime les moules frites, sans frites et sans maillot.
À toi, Polo.
Polo aime les moules frites.
On chantera tous pour
sans
toi.
Sans frites et sans maillot.
Yo.
Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Héloïse et aujourd'hui je vais vous présenter la culture intensive. Je vais vous parler de la culture intensive au sud de l'Espagne. En effet, malgré son côté désertique, le sud de l'Andalousie a réussi à se parer du titre de jardin d'Europe. En effet, c'est lui qui fournit la moitié des fruits et légumes de l'Union européenne hors saison. Cependant, ce titre donné n'est qu'une image, car la réalité est tout autre. En effet, cette région a acquis un autre surnom qui n'est autre que la mer de plastique. Pourquoi ce surnom, me diriez-vous ? La raison, la voilà. S'étendant d'abord sur 30 000 hectares, puis, au début des années 2000, sur 40 000 hectares, environ 57 142 stades de foot, les serres de la région d'Almeria, servant à la culture intensive de fruits et légumes, ont littéralement envahi le sud de l'Espagne, causant ainsi de nombreux problèmes environnementaux. L'un des premiers concerne bien évidemment les pesticides et autres engrais. En effet, la production due à l'utilisation de pesticides a atteint des sommets critiques. Mais il n'y a pas que les sols qui soient en danger, car les nappes phréatiques subissent elles aussi les conséquences de cette culture intensive. En effet, c'est environ 3 millions de tonnes d'eau potable qui sont utilisées par saison. Cela conduit donc à l'appauvrissement des nappes d'eau souterraines, même à 1500 mètres de profondeur. Et il n'y a pas que ça. En effet, toute cette production génère environ 3 millions de tonnes de déchets par saison. Parmi ces déchets, on trouve principalement les plastiques et les matériaux nécessaires à la construction des serres, et il faut bien évidemment les recycler. Heureusement, il existe des déchetteries officielles et des usines de recyclage ou d'incinération, mais à cause du fait qu'elles sont peu nombreuses et que cela coûte cher, beaucoup préfèrent l'évacuation, l'enfouissement ou l'incinération sauvage, polluant ainsi une grande partie des sols. Et pour finir, il y a bien évidemment les transports. En effet, ce ne sont pas moins de 1000 camions quotidiens qui polluent allègrement l'air lors de leur livraison dans toute l'Europe. Mais toute cette production n'a pas que des conséquences sur l'environnement. En effet, le personnel aussi est touché de diverses manières. En effet, une grande partie de la main-d'œuvre est issue de l'immigration organisée ou de sans-papiers venus d'Afrique, d'Amérique du Sud ou des pays de l'Est. Et bien évidemment, les conditions de vie de travail sont absolument horribles. En effet, c'est environ 80 000 ouvriers et ouvrières qui travaillent de 9 à 10 heures par jour avec une pause de 20 minutes pour un salaire journalier de 34 euros. Sans parler des conditions de logement et d'hygiène qui sont inhumaines. En effet, les migrants habitent dans des habitations faites avec des morceaux de plastique qui ne doivent sûrement pas respecter les normes sanitaires. De plus, leur santé est désastreuse à cause des très mauvaises conditions de vie et de travail. En effet, le fait de manipuler des pesticides peut entraîner des intoxications, ce qui peut être désastreux. En plus, les ouvriers sont très souvent les sujets de propos racistes et xénophobes. Il y a également beaucoup de violence entre les travailleurs et la population locale, comme en mars 2003 ou à la suite de l'assassinat d'une jeune Espagnole. Une vague de violence et de haine s'est abattue sur les ouvriers. Quant aux revenus financiers, après un boom économique, ils sont en train de chuter. De plus, le système andalou risque de se faire concurrencer par le Maroc. En plus, la concurrence et le prix élevé des machines, des engrais et des semences menacent les petits propriétaires. La conclusion, est-ce vraiment nécessaire d'acheter des fruits et des légumes, certes que l'on peut acheter hors saison, mais dont la population et dont la production est tout sauf écologique, et qui utilisent des ouvriers travaillant dans des conditions horribles, alors qu'on pourrait simplement attendre que ce soit la saison. Je vous laisse avec Green Washing de Trio. Merci d'avoir écouté et bonne journée.
On veut du green, 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 green washing. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs.
On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer. On veut du
c'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 green washing.
Elle cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc. Du réseau pour nos portables, on voudrait quatre bars tout le temps. Des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables.
On veut des baleines et du thon.
On veut du green, 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 green.
On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées.
On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été.
Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques.
On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique.
On veut du green, 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 greenwashing.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 greenwashing.
On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques, des forêts pour nos caca.
Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette émission sur Radio Villamont. Les présentations ont permis de comprendre un peu les défis de l'agriculture d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la mondialisation et comment s'organisent les échanges alimentaires? Des frites, du coca, du chocolat et des fraises en mars. Pas très sain tout ça. Mais cela nous permet de tirer un portrait bien réel des échanges commerciaux et de l'industrie agroalimentaire. Par cette émission, les élèves ont aussi pu découvrir que derrière nos achats et ce que nous mangeons chaque jour se cachent malheureusement de plus en plus d'inégalités sociales et d'impacts lourds pour notre environnement. Nous vous laissons avec les enfoirés qui nous rappellent que manger est un besoin vital. Voici la chanson des Restos du Cœur.
Je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
À tous les recalés de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage, si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste.